Maurice Strauss, Mémoire d'un voleur de qualité, Adam Worth. Je le vois encore tel qu'il m'apparut au Café Royal à Londres, en habit avec la cravate blanche, le chapeau de soie. Il avait sablé pas mal de champagne. Ses amis essayaient de le retenir à sa place, il leur échappait. Droit, correct, impeccable, un peu raide cependant. Il traversait la salle, s'arrêtait devant deux consommateurs assis à l'écart, dans un coin sombre. Il prenait son temps, vissait son monocle, puis le faisait sauter d'une chiquenaude, tirait son chapeau avec ampleur. « Bonjour, messieurs !» Vous êtes les techs, les détectives. Bien, je suis le voleur. Vous allez répéter et je vous assis en diffamation. Tout le monde sait que j'ai volé le Gainsborough. Mais vous, vous n'avez pas le droit de le dire. Filez-moi bien, messieurs. Sinon, je vous glisse entre les doigts et je cours à Paris. Ils volaient la Joconde. Partout dans la salle, on éclata de rire. Quelqu'un à côté de moi murmura « Voulez-vous que je vous présente ?»« Si je voulais être présenté à Little Adam, bien sûr je le voulais. C'était le héros du jour. Il avait pendant 20 ans su soustraire aux recherches de toutes les polices du monde le fameux tableau « La Duchesse de Devonshire » de Gainsborough, évalué à plus d'un million et qu'il avait volé. Maintenant, il venait de la restituer, mais contre argent comptant. Il me fit excellent accueil. « Vous écrivez ? Quel fameux livre il y aurait à écrire ? Dans les romans à la mode, que de bourdes et de ficelles, que de sang bon ! Tel que vous me voyez, monsieur, j'ai déjà volé. Au fait, combien ? Certes, plus d'un million de livres sterling. Et c'est pas en fini. Jamais je ne porte une arme sur moi. Mes mains sont nettes de tout sang humain. » Il me regarda en souriant, et ses amis riaient aux éclats de toutes leurs dents. « Et pourquoi n'écririez-vous pas mon histoire, les mémoires d'un voleur ?» Il la raconta, son histoire. Des années passèrent. Mes notes, prises pendant son récit, dormaient dans quelques tiroirs avec les paperasses accumulées. La Joconde fut volée. Je me rappelais sa bravade. Et puis, l'unique témoin qui avait vu quelqu'un sortir du Louvre le matin du vol et faire un geste suspect donnait le clair signalement de Little Adam. Je résolus d'en avoir le cœur net et fis le voyage de Londres. Non, non, ce n'était pas Little Adam. Depuis quelque temps déjà, il était mort. Et je me mis à regretter de n'avoir pas réalisé ce désir qui le hantait d'entrer vivant dans l'immortalité. Si bien que, ne voyant rien paraître de ce livre qu'il m'avait dicté, il avait fait faire par la police les frais d'une édition. Cet opuscule très sec, le Patterson's National Detective Agency, le distribue en guise de réclame, car les limiers de police, réputés dans le monde entier pour leur finesse et leur habileté, se montrent très fiers d'avoir connu Little Adam, qui n'ont jamais refusé à démasquer. Et dans la ferveur de leur admiration, devant ces prouesses plus audacieuses que celles des preux et des paladins, les Pinkerton se sont écriés « Comme la fiction la plus téméraire reste pâle auprès de cette merveilleuse réalité !» Mais voilà assez de prologue. Je m'efface. C'est à Adam Swartz lui-même qui va raconter au lecteur ses hauts faits, comment il les a conçus, puis accomplis, avec une tranquille, une déconcertante simplicité. Simplicité pour laquelle toujours la police fut déroutée, si bien qu'elle n'a jamais su trouver Little Adam quand les journaux enregistraient un de ses vols considérables, longuement, minutieusement préparés, puis paisiblement perpétrés en plein jour et quand le mouvement bat son plein au cœur de Paris. Maurice Strauss. Chapitre 1. Pour délivrer un complice maladroit, je suis obligé de voler la police. Son Altesse Royale, le Prince de Galles, déjeune chez moi. Sans le savoir, j'ai inventé le doping. Nous voici, Tediff et moi, dans la gare de Cannon Street. C'est la grande cohue de 9h30 du matin. Gens qui viennent, gens qui partent, foule affairée et silencieuse, dans le halètement des locomotives et sur leurs lignes, aigres sifflets, le cliquetis des ferrailles entrechoquées. Le policeman se balade. Il ne sait ce qu'on voit que ce qu'on lui montre. Mais gare au détective. Teddy porte sur son bras droit un pardessus de saison. Moi, un plaid. Ça n'a l'air de rien, mais c'est pourtant avec ça que nous masquons les utiles, les gestes utiles. De la main gauche, nous portons un sac de cuir. Les triangles de laiton en maintiennent les soufflets écartés, si bien qu'il a l'air d'être bourré. Ce que nous y prenons y glisse par une fente dissimulée sous une languette. Aïe, ça y est. En parlant, j'avais dit à Teddy, et surtout pas de montre. Est-ce qu'on sait jamais comment une montre va sauter du gousset? Une fois sur 10, c'est un oignon. Teddy n'a pas voulu m'écouter. Il est pris, pris et fini. Et frit. Ce grand lourdeau, reconnaissable comme détective, à 1 mille de distance, ouvre de force la main de Teddy, en arrache un méprisable butin, chronomètre de bazar. Mais qu'est-ce qu'il porte donc à sa cravate, ce policier peu élégant? Ma parole, mais ce n'est pas du sas, mais un diamant superbe. Un gras brillant qui doit peser dans les 4 carats. Et valoir au moins 150 guinées, à peu près 80 000 francs, 4 000 francs, pardon. Mais d'où est venue si belle parure? C'est ça qui m'est égal. Pauvre Teddy, mais il est si affreusement pâle, si hagard. Il me fixe avec de grands yeux fiévreux qui implorent. Mais imbécile, imbécile! Est-ce que tu te figures que je puis faire un miracle? Eh bien non, je dis non. Je ne laisserai pas ce butor emmener mon pâle, mon poteau. De sa robuste poigne, le policier maintient aisément Teddy, tout à fait effondré. De l'autre main, il lève au-dessus de sa tête l'objet du larcin. Mais soit que le volé ait poursuivi sa route sans s'être aperçu de rien, ou bien qu'il ne se soucie pas d'entrer en rapport avec la police, personne ne se présente pour réclamer la montre. Je me glisse derrière le tech, mes doigts en un geste sobre, preste et précis, saisissent l'épingle, la décroche, je les ramène en touche à l'épaule du détective. Et par un bond oblique, je me jette de côté. Il se retourne. Je saute d'un pied sur l'autre, prêt à esquiver son attaque. J'élève entre mes doigts le bijou qui scintille et je chantonne. « Let him go, let him go. Mais lâchez-le donc, lâchez-le donc. » Et il le lâche. Autour de nous, des gens se mettent à rire. Ils ne soupçonnent pas que ce que je viens de faire, et parce que je chasse et que je danse, ils me prennent pour un bonhomme très jovial. Le policier, rouge, les yeux à fleur de tête, apoplectique, porte la main à sa cravate. Et il fonce droit sur moi, dans l'impétueux élan de brute. J'ai évité le croc. J'ai évité le choc. J'ai fait tout simplement la moitié du tour d'un gros et grand voyageur. Placide, il lit son journal. Tournant le dos à la scène et rapidement joué, il ignore. Grâce à l'exiguïté de ma taille, ce colosse m'éclipse. Le détective, emporté par son élan dans la foule mauvaise, émouvante, piétine sur place. Il bouscule ce qu'il sert et ne comprenne pas ce qui lui arrive. Je l'entends s'écrier. « Le misérable coquin! Mais par où a-t-il passé? Je vous dis que c'est un voleur! Pour l'amour du ciel, ne le laissez pas échapper !» Ces cris à meute effrayant le public. Cependant, je vois le garde fermer à clé ses portières. J'ai mon abonnement. Peu m'importe la destination du train. J'y entre. Le train démarre. Il est parti. Ah, je suis seul dans le compartiment. Mes nerfs se détendent. Je pleure comme une femme. Comme c'est bête. Tant de risques pour un piètre butin. Oh, plus jamais je ne ferai le pickpocket. Le train ralentit, s'arrête. Nous sommes à Charing Cross. Je descends. Un cab me conduit rondement à Vauxhall Bridge où j'ai un pied à terre. Teddy ne parle pas, se montrer. Il ne tarit pas en protestation de reconnaissance. Oh, je l'envoie à tous les diables. Enfin, me voici en robe de chambre, confortablement installé dans mon fauteuil, dans ma garçonnière, au numéro 198 de Piccadilly. Pâle d'orgueil et tremblant de respect, mon valet de chambre, avec un geste théâtral, me présente sur un plateau d'écaille un pli revêtu d'un sceau bien connu, le crest, le limier du prince de Galles, les trois plumes d'autruche, avec la devise orgueilleuse « Ich dien ». Son Altesse royale, avec ses meilleurs compliments, remercie cordialement Mr. Harry Raymond son invitation. Elle l'accepte. J'eus de la peine à me retenir. Mais, quand le valet fut sorti, je pouffais de rire. Une véritable crise. Quoi, tant d'honneur! Le prince héritier de la plus fière des couronnes, celui qui devait plus tard, sous le nom d'Édouard VII, régner si glorieusement sur le plus vaste empire du monde, acceptait le déjeuner que je lui offrais à bord de mon yacht, le Shamrock. Et soudain, par un revirement des plus naturels, tout attendri, je me laissais aller un enchaînement de réflexions. Pauvre cher prince, s'il avait pu se douter. Mais comment aurait-il pu se douter de ce que la police elle-même ne soupçonnait aucunement? Dans le caractère du prince, tout de loyauté et de grandeur, il entrait dans la circonspection et point de méfiance. Il m'avait pris pour un gentleman. Il me traitait comme tel, et voilà tout. Cette bienveillance me couvrait. Elle constituait la meilleure garantie de mon honorabilité et m'était infiniment précieuse. Frayer avec les honnêtes gens, avec ceux du rang le plus illustre, doit être la principale préoccupation du filou qui se respecte et veut réussir. Voilà pour le côté pratique. Il y en avait un autre, qui n'est pas un peu vaniteux. Le dandysme du prince, aussi raffiné que celui de Brummel, d'impérissable mémoire, était d'un ordre beaucoup plus élevé. Son assentiment, même tacite, consacrait une réputation de virile élégance. Comment la connaissance s'est faite ? Chez Paul, le tailleur du prince, et aussi le mien. Paul, dont le nom éveille tant de souvenirs, plutôt folichon. Et tandis que le coupeur présidait à l'essayage, il me parlait de la déception de son Altesse. Le prince avait été sûr de gagner le Liverpool Steeplechase avec son cheval Amrush, que l'entraîneur affirmait au mieux de sa condition. Et voilà qu'Amrush se montrait mou et déprimé. En écoutant ce verbiage, je ne sais quelle inspiration me fit penser à ces maquignons que j'avais vus en Autriche métamorphoser une rosse à vache en ardent coursier, tout simplement par un peu d'arsenic mêlé à l'avoine. Je me fis fort de mettre un bûche en état de gagner. Toujours après un bûche, comme dans un fauteuil, gagner le Liverpool, Steeplechase. J'avais aussi un cheval engagé dans cette course, et le prince daigna me complimenter sur la bonne tenue de mon écurie. Mon Shamrock, un fin et joli yacht à vapeur de 260 tonneaux, avec 20 hommes d'équipage, se trouvait ancré à St. Catherine's Wharf. Je donnai l'ordre de lui faire remonter la Tamise et de jeter l'ancre devant l'aiguille de Cléopâtre, l'obélisque. En vue de l'auguste réception, j'avais grandement fait les choses. Maple venait de procéder à la réfection du carré de mon yacht. En citronnier marqueté de cèdre et de bois de rose, dans le plus pur Chippendale, le style Louis XV en anglais, il était tout à fait séduisant. J'avais prodigué sur la nappe les orchidées les plus rares et engagé, eux, le chef français, qui m'avait promis de réaliser ses plus merveilleuses bactéries, sa cuisine des grands jours. Je ne sais quelle envie de gaminer me poussa. Dans le coffre au pavillon se trouvait un drapeau que j'avais, en un jour de fantaisie, fait confectionner avec un soin particulier. C'était, sur un fond de soie noire, la tête de mort surmontant les deux os en sautoir, le tout brodé en argent. Le romantique Jolly Rogers, et dont les feuilletonistes ont tant abusé. En même temps que le prince mettait le pied sur le pont du navire, un petit canon tonna, le pavillon royal d'Angleterre se déploya à la corde d'Artimon, la bannière déserte des pirates s'éleva le long de la drisse du grand mât, et un essaim de jolies actrices, au sourire enivrant, lui envoyait des baisers. Son Altesse éclatait de ce rire sain et honnête que lui gagnait les cœurs et s'écriait « Very good indeed. Elle est bien bonne. » Chapitre 2. Un regard en arrière. Quelques-unes de mes prouesses. J'en passe, c'est les meilleures. La femme fatale. On accuse les esprits. Londres rit et se gausse. Tout le monde se moque de l'homme de la police qui s'est laissé voler son diamant. Tous les détectives de Scotland Yard, la sûreté anglaise, se sont lancés à ma recherche. Sur quelle piste, je me le demande. N'importe, il serait bon d'aller pendant quelque temps respirer un autre air. À Paris, j'en viens, et c'est justement une affaire de diamant qui m'en a fait sortir. Mais je m'aperçois que pour l'intelligent de ce récit, il serait bon de remonter à la source, de reprendre les choses à leur début. Oui, je me targue d'être un gentleman. La façon dont m'accueillent et me traitent les grands de la terre avec qui je daigne frayer était ma conviction. Et voici que je manque aux convenances les plus élémentaires. Je parle au lecteur, je poursuis mon récit, sur le ton le plus intime, le plus familier. Je ne me suis seulement pas présenté toutes mes excuses. Moi, Adam Wolf, je suis né dans le Massachusetts, à Cambridge, une petite ville près de Boston. Mon père, récemment immigré, était un pauvre petit tailleur juif chargé de famille. À 6 ans, le jour de mon entrée à l'école, je me conduisis en gredin, en greenbone, c'est-à-dire en poire, pour la première et dernière fois de ma vie. À la récréation, comme je me mêlais au jeu de mes camarades, un des grands fit briller à mes yeux un sou tout neuf, tout reluisant. Quand j'eus admiré sans réserve ce tel objet, il me proposa de me le céder en échange de 2 vieux sous, toute ma fortune. J'acceptai avec transport. Et le soir, à la maison, m'étant vanté d'un marché si avantageux, je reçus de mon père une correction qui me guérit à tout jamais de l'envie d'être dupe. Je fus proprement fouetté à l'américaine avec de bonnes verges de bouleau frais, ce qui ne laissa pas d'éveiller une insupportable cuisson à mes petites fesses et me rendit fort appliqué à éviter la même faute. À 14 ans, j'entrai en qualité d'apprenti chez un mécanicien. Bientôt, avec un fil de fer tordu selon la circonstance, j'ouvris n'importe quelle serrure, et les coffres-forts durent avoir la vanité de leurs secrets. Mais ils ne contenaient rien. Je fus vite dégoûté de ce platonisme et aussi du travail manuel. Pourtant, il me fallait gagner ma vie. Je venais d'avoir 16 ans. Je me trouvais à me placer chez un marchand de serrurerie dans Broadway. J'y fus malheureux. Mon caractère pointilleux me rendant toute discipline insupportable, et je me sentais fort ennemi et enclin, plutôt, au plaisir. Nous étions alors en guerre avec le Sud, et dans les tripots du Beverly, où la dame de pique me raflait régulièrement le plus clair de mon salaire, fréquentait les Bounty Jumpers, les sauteurs de primes. Ils entreprirent mon éducation. Bien que je n'eusse alors que 18 ans, de faux papiers me permirent d'en éclairer 20 au recrutement. On m'y versa $1,000, 5 000 francs, en échange de ma fausse signature. Enrôlé, incorporé dans l'infanterie de ligne, je fus dirigé vers un fortin dans l'Ohio, où un escadron de cavalerie était aussi caserné. Sauter la prime, déserter, oh, je ne demandais pas mieux. Mais comment? Et si l'on me rattrapait? C'était la fusillade. À force de manier les cartes avec des Grecs, j'avais appris quelques bons trucs. Un maréchal de logis fut ma victime. Il était très joueur et un peu dessalé. Son pauvre argent ne me tentait guère. Mais j'avais arrêté mon dessein. Il perdit, joua sur parole, perdit encore. Il me devait $40 et ne savait où les prendre. Il m'en fit l'aveu, déclara qu'il allait se faire sauter la caisson. Je le dissuadai. Est-ce que votre suicide me ferait réaliser mon grain? Non, vivez joyeux, n'en parlerons plus. Il voulait en parler. Avec d'effroyables serments, il me jurait une reconnaissance éternelle. Je le pris au mot. 3 jours après, il allait au fourrage, et je me dissimulais sous les bâches dans un fourgon. À bonne licence du fortin, je sautais du fourgon derrière lequel mon chef trottinait. Un épouvantail pris dans un berger me fournit un costume complet de tramp, c'est-à-dire de cheminot. Ainsi affublé, gueusant pour la forme, je voyageais à petite journée. J'avais au pied une bottine en escarpin, également frouée, à la semelle en languette, une redingote jadis noire, maintenant de couleur pisseuse, agrémentée de maintes reprises et dont une manche tailladée, pendant librement, se refusait obstinément à épouser mon bras. Le pantalon était plus fantaisiste encore. On avait bouché les trous avec des carrés d'étoffe de nuances diverses, et les deux jambes étaient de longueur inégale. À New York, plus décemment habillé et muni d'un nouvel état civil, aussi faux que l'autre, je me fis de réchef, enrôlé et touché d'encore une prime de $1,000. On me versa dans l'armée du Potomac. Je pris part à la bataille de Villernes. Il paraît que je m'y suis bravement comporté. Ce que j'en sais, c'est que, dans le bruit et la fumée, j'ai lâché quelques coups de fusil, tiré trop haut pour atteindre un ennemi invisible et inconnu. La paix faite, je retournai à New York, bien résolu à vivre largement aux dépens des riches. Je me mis à fréquenter la société qui me convenait, les escrocs et les voleurs. Oh, je les eus vite jugés, ces camarades. Ivrognes et salaces, tous des impulsifs, bons à exécuter un plan, incapables de le concevoir. Ils goûtèrent mon aphorisme, qu'il est plus facile de réussir une grosse affaire que si petite, et ils sollicitèrent mon ascendant. Avant toute chose, je créai une contre-police. Elle surveillait nos surveillants, les détectives. Elle nous fournit une indication et des indications très utiles et nous signala les occasions. Déjà germait dans mon cerveau l'idée que j'ai réalisée depuis de créer une banque du crédit aux voleurs. Car souvent, c'est faute de capital que les plus grands risques sont courus. Mais il me tardait de pratiquer. Mon coup d'essai fut un échec. Nous avions appris par un de nos hommes qui tenait un comptable de l'établissement que l'Atlantique, une compagnie de transport dans Liberty Street, avait reçu $30,000 en or, 150,000 francs. C'était 150 kilos de précieux mais lourd métal à enlever. Nous y allâmes à 4. Nous ouvrîmes 2 portes. Le coffre-fort ne fit pas plus de difficulté. Mais alors nous nous trouvâmes devant une boîte en acier, visée au coffre-fort par des écrous intérieurs et sans aucune serrure visible. Nous épuisions à vouloir l'arracher de la tablette, où elle se carre dans une insolente placidité, vains efforts. Et comme il arrive toujours en pareil cas, l'un se flattant d'être plus adroit que l'autre, on se disputa et les éclats de voix attirèrent l'attention des gardiens. Il fallut décamper avec les mains vides. La deuxième affaire réussit pleinement. J'avais imaginé une méthode qui depuis a fait fortune. Et je crois que j'étais le premier perceur de murailles. Dans Washington Street, à Boston, chez un barbier, le frater, en me savonnant, me confia qu'il cherchait à céder sa boutique et son fonds. À l'instant, j'eus une idée. Je louais la boutique. j'annonçai un nouvel apéritif. Je masquai la vitrine par une pile de bouteilles qui atteignit jusqu'au plafond. Et le cloison me donna une arrière-boutique. Et 8 bons bras attaquèrent la muraille qui nous séparait des locaux de la Melstone Bank. Dans 3 coffres forts aisément forés, nous trouvâmes plus $1 million, 5 millions de francs, or, billets de banque, titres, etc. Ce butin, honnêtement partagé, chacun tira de son côté. Charles Ballard et moi prîmes le premier train pour New York, où les détectives de Boston, à notre poursuite, arrivèrent trop tard et ne purent retrouver nos traces. Car nous nous rendîmes par l'omnibus à bord du steamer Persia de la Cunard Line Line, où dans notre cabine, retenue depuis 3 semaines, des bagages tout neufs nous attendaient. Une heure après notre arrivée, le Persia levait l'ancre, démarrait en route pour Liverpool. J'avais fait prendre mon billet de passage au nom de Harry Raymond, ce qui me faisait l'anonyme de l'honorable propriétaire du journal The New York Times et ne conduisait pas peu à dérouter la police. Bellard s'était fait inscrire sous le nom de Wells. Ainsi s'appelait un barmaid dont il était féru d'amour et qu'il attendait à Liverpool. Ils s'y marièrent et partirent aussitôt pour Paris, où, je le promis, je devais bientôt les rejoindre. J'avais résolu de séjourner un peu à Londres, que je désirais connaître, et aussi dans l'espoir d'y faire un bon coup. Car, pour ce que je voulais faire, il me fallait beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'était à Londres seulement que je pouvais liquider ma part des titres volés à Boston et qui, par le télégraphe, avaient été frappés d'opposition. Je savais où aller et mes premières visites furent pour les receleurs les plus respectables. Et en me promenant, je fis la rencontre d'un camarade, Sneaky Davy, de New York. Une véritable anguille, et disloqué comme un clown. Nous nous trouvâmes dans Old Bond Street, devant une petite mais riche boutique de joaillerie. Je poussai Davy du coude. Il avait compris et il murmura: « Oh ça, mon vieux, il faut pas se déranger. »« Et pourquoi, monsieur ?»« Bon, plein jour, ce serait fou de l'essayer. »« Mais la nuit, c'est encore plus impossible. »« Les volets ne sont pas baissés. »« La boutique reste éclairée à giorno. »« Et tous les quarts d'heure, le policeman passe, »« vient aplatir son nez contre la vitre. »« Qu'est-ce que ça fait ?»« Il crut que je plaisantais. » Je lui révélai mon plan, il le trouva raisonnable. Par une nuit de février, pluvieuse et froide, l'ouvrage fut commencé à 2 heures du matin. Sneaky Davy faisait le guet. Il laissa tomber sa pipe, signe convenu. Je m'en allais. Le policeman vint, examina, repartit. Je revins. Enfin, un verrou glissa. Je repartis, revins, fis glisser un deuxième verrou. La serrure joua sans se faire prier. Une chaînette d'acier scellée sous la chrysaille. J'entrai et repoussai les verrous. Sneaky Davy grimpait un réverbère et sautait sur l'entablement de l'imposte au-dessus de la porte de la boutique. Elle était flanquée de 2 statues. Il se dissimula. Alors, par le vasistas de l'imposte, glissèrent 2 fils de soie. Davy en garda une extrémité entre ses doigts. J'enroule à l'autre bout d'un fil autour de mon oreille droite, et le bout du second fil, je le nouais à mon oreille gauche. Une saccade du fil à droite me signale le danger. Je cours me blottir sous le comptoir. Le policeman passe, autre saccade, et cette fois à gauche. C'est la sécurité. Je marche au coffre-fort. 14 fois je fus dérangé. Il n'aurait pas fallu éternuer de peur de casser le fil directeur. Enfin, je tenais les beaux écrins. Il était temps. L'aube blanchissait l'horizon. Un moment ouvrier et compagnard animant la rue. Il convenait de décamper, et vivement. Mais c'était un bien joli butin que nous avions fait. Et Bob B. nous versa, rubis sur l'ongle, c'est le cas de le dire, 700 000 francs en échange de cette marchandise. Ainsi lesté, j'étais prêt à naviguer, toute voile dehors, sur l'océan des délices parisiennes. Oh, Paris, quelle ville! Partout on peut gagner de l'argent. Ce n'est qu'à Paris qu'on peut le dépenser avec la compensation intégrale. Et voilà pourquoi, sans aucun doute, les riches du monde entier rappliquent vers ce centre de toute belle vie. Et voilà aussi pourquoi ceux qui, comme moi, convoitent l'argent des riches, ils sont attirés aussi sûrement que la clarté dans les ténèbres attire les papillons de nuit. Oh, non pas que le vol y soit plus aisé qu'ailleurs. La police parisienne est vigilante, pointilleuse, à l'égal des meilleures polices. Fidèle gardienne de l'ordre établi, elle ne cesse d'y veiller. Si on veut la décevoir, il faut être adroit. Mais dans ma partie, comme dans toutes les branches de l'activité humaine, Paris, qui ne souffre pas de la médiocité, récompense dignement la maîtrise. Toute fausse modestie à part, je ne pouvais songer à me cataloguer parmi les imbéciles. Mes collègues se seraient récriés. Mon passé aurait protesté. Après le juste tribut d'admiration accordé aux beautés de Paris, il me tarda d'exercer mes petits talents sur le terrain si fertile. J'avais un ami qui demeurait rue de Grammont, et quand je lui faisais visite de ses fenêtres, je remarquais les allées et venues des garçons de recette d'une grande banque envoyée aux encaissements. En ce temps-là, ils portaient simplement sous le bras leur sacoche dépourvue de la chaîne de sûreté dont on l'a mis nuit depuis. Par des filatures répétées et discrètes, je pus en savoir assez pour échafauder mon plan. J'appostais Charles Bullard et un certain Bauer, un grand gaillard, bâti en force, dans la rue de Grammont. Ils faisaient les 100 pas sur le trottoir, causaient. Il semblait que ce fût avec animation. Moi, je me tenais caché derrière la porte grande ouverte de l'immeuble où demeurait mon ami. Bullard et son compagnon passèrent. Bauer laissa tomber son cigare et s'arrêta pour ramasser le bout d'ambre qui lui servait à le fumer. C'était le signal convenu. L'encaisseur, sans méfiance, déposa et dépassa mes complices. Je n'eus qu'à tendre le bras pour saisir sa sacoche et la tirer à moi. Et sans m'arrêter, je montai chez mon ami, saluant la concierge habituée à ma figure, à l'avoir passée devant sa loge. Le garçon de recette se retournait vivement et se heurtait à Bauer, qui le repoussait avec rudesse, en lui disant de faire attention. Le volet le prit au collet et se mit à crier de toutes ses forces au voleur, s'ébahissant de ne pas lui voir la sacoche. Les passants accourus restaient perplexes. L'encaisseur s'arrachait les cheveux et ne pouvait comprendre, encore moins expliquer, comment sa serviette bourrée de billets de banque venait de lui être enlevée, qui l'avait prise et où elle avait été passée. Les deux Américains, l'air gouailleur et sceptique, suivaient docilement au poste voisin l'agent qui venait de surgir. Leur identité parut suffisante. L'un négociant établit, l'autre touriste de distinction. Ils déclarèrent n'avoir rien compris à la subite explosion de désespoir du garçon de recette qui s'était jeté sur eux en criant, en les bousculant, en les traitant de voleurs. Ils n'avaient vu personne à proximité qui eût pu s'emparer de la sacoche, encore moins l'escamoter, et si mystérieusement, ils ne pouvaient certifier si l'encaisseur portait vraiment une sacoche. Ils en doutaient. En termes peu voilés, le commissaire laissa entendre qu'il soupçonnait fortement le garçon de recette de jouer la comédie, bien qu'il se livrât à une bruyante manifestation de chagrin. C'était, déclarait-il, une affaire à tirer au clair. Cependant, dans l'appartement de mon ami, j'avais retiré les billets de banque et nous nous amusions à brûler la serviette volée dans le beau feu de bois qui pétillait dans la cheminée. Mais le butin n'était pas extraordinaire. 35 000 francs à partager entre 4 personnes. J'aurais préféré débuter par quelque chose de plus important. À Paris, Belard, ou plutôt Charles Wells, car il avait pris le nom de sa femme, s'était installé au numéro 2 de la rue Cérybe. Il y avait ouvert un bar américain avec ses ors criards, ses flocons de cristal et ses verres colorés. C'était une nouveauté pour les Parisiens. Elle eut du succès. Elle en eut plus encore auprès des Américains et des Anglais. Si bien que, voyant une veine à exploiter, Wells louait au premier étage un grand appartement qu'il emménagea en club. Et on ne tarda pas à y jouer le baccarat. Et les beaux yeux de Kit Wells allumaient la partie. Ils allumèrent aussi la passion au cœur d'un roi. Il faisait chaud. La porte du bar restait ouverte. De la rue, on pouvait voir la belle Kitty trôner à son comptoir. Un homme de haute taille, à la grande barbe, au grand nez, passe, traînant la jambe. Brusquement, il s'arrêta. Le coup de foudre. Il entrait, s'asseyait et, silencieux, devant une consommation à laquelle il ne touchait point, il faisait à l'imposante dame une cour d'écolier. Ses yeux parlèrent pour lui. Avant de se retirer, il jeta sur le comptoir sa carte de visite. Le comte de Terwilliger à l'hôtel Bristol. La carte fit le tour du bar. Et chacun de rire de l'émoi timide de ce grand Flandrin, passablement amer et mûr. Seul, je gardais mon sérieux, et dis à Kitty, éberluée, « Ne vous manquez pas, vous venez de tourner une tête couronnée. » Le roi ne revint pas, mais il dépêcha un aide-de-camp qui militairement réquisitionna Mrs. Wells pour le service du maître. Elle était faite pour lui plaire. Grande, très brune, mince, elle prenait parfois de petits airs autoritaires tout à fait amusants. C'était cela qui avait séduit le monarque. Car ce qui passionnait, c'était de se faire dire des sottises dans l'intimité. Même les gifles ne lui plaisaient pas et formaient sa disposition à l'amour. Son idéal, c'était la servante d'auberge, au verbe vif et sonore, à la main leste. La virago grossière et brutale, dont il faisait une baronne, elle lui donnait des millions. Mais la douceur de Kitty était extrême. Quand elle riait, c'était avec une fossette à chaque joue. Cependant, des pontes malheureux adressaient à la police des lettres irritées et plaintives. Le commissaire surgissait, inattendu et soudain. Mais quand il faisait irruption dans le club, il n'y voyait que des messieurs attentifs à lire les journaux et quelques dames bavardant innocemment. Par malheur, un détective américain, William Pinkerton, courait dans Paris à la recherche de cambrioleurs qu'il poursuivait depuis New York. Il ne manqua pas d'aller visiter le bar de la rue Scribe. Pour lui, Charles Wells, c'est-à-dire Bellard, était une vieille connaissance. En bonne confraternité, il avertit la police parisienne. Il fit mieux, car accompagnant le commissaire dans sa descente, il lui fit voir un bouton électrique dissimulé sous le tapis derrière le comptoir et que le garçon du bar n'avait qu'à presser du pied pour qu'au deuxième étage, un bourdon prévint les joueurs d'avoir à cacher les cartes. Wells, arrêté et remis en liberté sous caution, préféra abandonner son argent et se réfugier en Angleterre, où déjà sa femme l'avait précédé, fuyant devant la tourmente. Mais elle ne put se résoudre à quitter Paris, tant elle raffolait, sans donner l'occasion d'y faire parler d'elle. J'élaborai à son intention un fort joli plan qu'elle exécuta avec maîtrise, car elle ne manquait pas d'un propos et de savoir-faire. Elle était fort belle, je le répète, portait définitivement la toilette et possédait de magnifiques bijoux. En somptueux équipage, tous à tour dehors, elle se rendit chez un des grands bijoutiers de la rue de la Paix, y préleva parmi ceux que l'on lui offrait l'un des plus beaux colliers de perles. Le commerçant écrivait la facture et lui dit « Oh, c'est pas moi qui paye. Faites la note au nom du docteur X et que votre commis m'accompagne pour toucher. » C'est un usage courant. La dame, d'une beauté éclatante, a de la distinction. Le docteur X, un spécialiste des maladies mentales, est riche, considéré, comment se méfier. Ce que le bijoutier ne sait pas, c'est que la veille, l'incomparable Kitty est allée à la maison de santé que dirige l'honorable docteur. Et admis en sa présence, elle lui a dit « J'ai un frère qui a été commis bijoutier. À sa demande de son patron, il a accompagné un acheteur qui désirait payer chez lui son emplette. C'était un escroc. Il a fui avec les bijoux. Et mon pauvre frère a perdu sa place. Maintenant, il est possédé d'une étrange manie. Il a gardé les factures à la tête de la maison qu'il a employée. Il remplit ses factures, les présente à tout venant, exige d'être payé. « Ah oui, je comprends, » fait le docteur. Et il pose des questions, sollicite des détails. Kitty répond à tout et avec précision. Le docteur lui dit « Amenez-le-moi demain. »« Oh » fait-elle tout émue, « ce sera terrible. Ne puis-je pas aller attendre le résultat de votre examen dans la chambre à côté ?» « Mais c'est tout à fait naturel, » approuva le docteur. Et Kitty, le lendemain, pénètre dans le cabinet du docteur à qui elle dit « Voici le bijoutier. » Elle s'en va, passe par l'antichambre, sort de la maison et fouette cocher à la gare du Nord. Le commis s'étonne des questions du docteur, sort la facture. Le praticien l'interrompt. « Oui, je sais, nous en reparlerons tout à l'heure. » Et il continue à interroger, à tâter le malheureux, qu'il croit démon, et qui va le devenir à force de s'énerver. Enfin, las d'être tourmenté de la sorte, le commis impérieusement demande d'être payé. Le praticien, las d'avoir vainement employé la douceur, veut recourir à l'intimidation et fait d'une voix autoritaire en scandant les mots. « Soyez raisonnable. Vous savez bien que si vous avez été commis bijoutier, vous ne l'êtes plus. Vous n'avez fourni aucun bijou et cette facture que vous me présentez est fictive. » Le commis, stupéfait, se demande s'il rêve. Et sa fureur se déchaîne. Il crie, il menace, et on le douche. Le docteur s'intéresse à ce malade dont la folie lui semble si originale. Il ne le quitte pas et préside à tous les traitements qu'il lui fait subir, tout en l'exhortant à renoncer à sa chimère. Si bien qu'il en oublie tout à fait cette dame, la sœur qui attend dans l'anxiété le résultat convoité. Le malheureux commis ne cesse de hurler et traite d'escroc et de voleur le docteur, qui ne songe pas à s'en étonner. On l'enferme dans un cabanon. On l'y garde jusqu'à ce que son maître, inquiet, vienne le réclamer. Alors, tout s'explique. Mais Kitty est loin. Charlie Wells ne devait plus la revoir. Quand il arriva à Londres, elle était en route pour la Havane, enlevée par un planteur cubain. Avant de partir, Wells m'avait prié de trouver un acquéreur pour le bar ou le liquider. J'y consentis avec l'espoir qu'avant de céder la place, j'y trouverais l'occasion de quelques beaux coups. J'avais commis quelques larcins dont le récit serait trop long. D'ailleurs, je ne ratais pas là une occasion de battre monnaie, et Dieu sait si dans ce merveilleux Paris les occasions sont fréquentes. Je veux en citer une dont j'ai su tirer profit, ce qui démontre que si je m'avais choisi une carrière plus lucrative encore, le commerce eût été mon fait. Parmi ceux qui fréquentaient le bar, il en était qu'il y avait toujours quelque affaire à proposer. Un jour, on parle d'un lot considérable de gants de femmes, de gants de Grenoble, de première qualité. Je les achète, je fais séparer les mains droites des mains gauches, j'envoie les droites à Londres, les gauches à Douvres. Le co-signataire, ce vieux Bombay, le receleur d'Inchington, refuse de payer les droits. À la préemption, nul autre acquéreur que lui ne se présente. Personne ne se souciant d'entrer en possession d'une marchandise si invendable, des gants dépareillés. Et il obtient le lot pour quelques shillings. Enfin, le coup souhaité vient s'offrir. Un joaillier de Londres, qui est allé à Amsterdam et à Anvers y faire ses achats, veut compléter à Paris quelques-unes de ses lots de diamants. En route de la gare du Nord au Grand Hôtel, il fait arrêter sa voiture au bar de la rue Scribe, où il a déjà fréquenté. Quand il a avalé d'un trait son whisky and soda, il frappe de la main sur le sac de cuir jaune qu'il n'a pas lâché. Est-ce qu'on dirait qu'il n'y en a pas pour 30 000 livres, 750 000 francs là-dedans? Je soupèse le sac. Oh non, non, on ne le dirait pas. Ce n'est pas lourd. Eh bien, demain, il y en aura pour 5 000 livres de plus. Et il s'en va et promet de passer au bar pour le coup de l'étrier. Je tenais le signalement du sac. Je savais où trouver le même exactement chez un muletier de la rue Saint-Honoré. Et par bonheur, j'avais à ma portée le complice rêvé, un clever boy de New York, Joe Elliott. Sa spécialité, il y excellait, était de faire le croak, c'est-à-dire de voler en tapinois. Depuis le matin, John Elliott, couché à plat ventre sous le divan, attend le précieux sac avec le sac de tout point semblable. Le joaillier descend de voiture, se juge sur une haute chaise devant le bar, cause, boit et tient son sac sur ses genoux. J'avais gardé quelques belles pierres, produits de vols antérieurs. J'avais pris le plus gros de ces diamants, d'une eau magnifique. Je le montre à l'anglais. « Qu'est-ce que vous me donneriez pour ça ?» Il se saisit de la pierre pour mieux l'examiner à la lumière. Il fait quelques pas vers le jour. Machinalement, il a déposé son sac sur la chaise. Il revient, fait son offre, que je déclare dérisoire. Elliott a su mettre le moment à profit. Et maintenant, je le vois se glisser sous les tables, entre les consommateurs qui ne se doutent de rien. Il se redresse près de la porte, sort du bar sans hâte, le plus naturellement du monde, et l'a recouvert d'une toile grise, le sac jaune. Seul avec moi, le garçon de bar a vu le manège, mais c'est un des nôtres. Soudain, pris de ne sais quel soupçon intuitif, le joaillier, d'un geste fébrile, ouvre le sac qu'il avait pris sur ses genoux et me saute à la gorge. « Volé, je suis volé !»« Qu'est-ce que vous dites ?»« Je dis que je suis la victime d'un roi coquin. »« Oh, prenez pas cet air idiot !»« Mon sac, je veux mon sac !»« Vous allez me dire où il est, ou bien je vous étrangle !» L'indispensable agent de police apparut. Je l'invitai à entrer. Le joaillier m'avait lâché et se lamentait. L'agent et moi, nous l'emmenions chez le commissaire où il dut reconnaître que je ne pouvais avoir pris le sac. D'ailleurs, je sollicitais, j'exigeais une perquisition. Ce fut dans Paris un tapage énorme. Pendant 8 jours, les journaux furent encombrés de commentaires sur les deux sacs. Le spiritisme était alors fort à la mode. On ergota sur les causes mystérieuses, les effets tangibles. Je pensais qu'il valait mieux pour moi m'éloigner pendant quelque temps du boulevard. Après avoir, pour le compte de Wells, vendu le bar à un bookmaker qui en avait envie depuis longtemps, mais ne voulait pas le payer cher, je disais à Paris, non pas adieu, mais au revoir.